Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Xavier Perron est écrivain, anthropologue et expert des peuples premiers. Ses protégés, les Maasai et leur peuple qui vit entre le Kenya et la Tanzanie. L'histoire de Xavier est peu banale. C'est l'histoire d'un homme qui, très jeune, savait qu'il devait partir chez les Maasai. Aujourd'hui, il est devenu une sorte d'ambassadeur de leur culture et de leurs croyances. Dans cette émission, il partage avec nous une petite partie de la sagesse de ce peuple. Donc avec nous aujourd'hui, Xavier Perron. Donc avant de parler des Maasai, dont on parlera dans cette émission, ce qui m'intéresse, c'est un peu ton parcours. Comment est-ce que tu t'es retrouvé? On va revenir il y a longtemps en arrière, il y a très longtemps. Qu'est-ce qui a fait que tu quittes les frontières de la France? Et est-ce que ça a été tout de suite l'Afrique? Ou parle-moi un peu de ton univers et de ton parcours.
En fait, c'est très curieux. Je suis brestois d'origine, donc une famille de neuf. Je suis le neuvième dans ma fratrie. Neuf, c'est le chiffre sacré des Maasai. Déjà, il y a une petite indication. Perron, Perron. En Maasai, c'est transmetteur de la, c'est le bâton mâle et aussi transmetteur de la spiritualité. Donc il y a déjà une deuxième indication. À 6 ans, je fais une expérience de mort imminente. Je me noie en Bretagne. Je ne meurs pas, évidemment. Et je fais un rêve qui m'indique que en fait, c'est un Maasai. Voilà. Enfin, sur le moment, je ne le sais pas, mais c'est déjà les Maasai. Je lis parallèlement tout ce qui a trait aux Maasai. C'est un peuple qui me fascine littéralement. Est-ce la liberté qui les anime? Sûrement. La vérité aussi. Je trouve que voilà, je devais ressentir déjà que c'est pas des gens qui mentent, qui sont vraiment en accord avec eux-mêmes, alignés. C'est pas des termes que j'utilisais quand j'avais 6 ans, évidemment. Mais j'étais très attiré par eux à travers les lectures, évidemment, de Kessel, Hemingway. Aussi, bien sûr, Karen Blixen, la ferme africaine, dont Sidney Pollack a fait le film Out of Africa, que beaucoup de gens ont vu, évidemment. On voit les Maasai avec la brume de chaleur, justement, le regard clair et la démarche alerte. Très beau. Alors, des tas de signes qui ont jalonné toutes ces années. Et en fait, on peut dire des synchronicités. Une de mes sœurs, par exemple, est ma marraine et va habiter au Kenya. Elle se marie avec un Breton qui travaille à Mombasa. Donc elle m'envoie un billet d'avion. Voilà, ça, je vois les Maasai. Confirmation, émotion. Donc moi qui travaillais peu à l'école, je me mets à travailler comme un fou avec un seul but, aller vivre chez les Maasai.
Mais là, tu avais quel âge? Donc la première fois où tu prends ton billet d'avion pour aller en Tanzanie ou au Kenya?
J'avais 18 ans, 17, 18 ans. Ensuite, je décide de faire des études d'anthropologie au sens premier du terme, anthropos logos, l'étude de l'homme sous toutes ses dimensions. Alors je fais des études de droit, d'ethnologie, de sciences politiques, l'école des langues orientales, l'école l'INALCO, pour les langues africaines. Je laisse rien au hasard. Comme je mets toute mon énergie là-dedans, très vite, je m'aperçois que je suis bien vraiment sur mon chemin. J'ai des bourses, on m'appellera même Monsieur Bourse, une, deux, trois, quatre, cinq, enfin, je ne sais plus où les mettre. Et bon, je me dis, là, c'est quand même, il y a quelque chose de très, très fort. Et je vais passer une année en Angleterre pour les archives coloniales en particulier, et puis pour parfaire mon anglais. Là, je tombe amoureux d'une malheureuse... pas comment dire. Non, heureusement, malheureusement, pas oui. Si, j'étais très heureux, mais l'amour total, quoi. J'étais bien avec cette jeune fille et je vous raconte ça parce que ça a du sens, vous allez voir. Je vais prendre le thé chez elle, louer une chambre dans une maison victorienne comme la mienne d'ailleurs, enfin moi aussi je louais. Vous savez que ces beaux windows, ces maisons toujours assez intéressantes. Je frappe à sa porte pour aller prendre le thé chez elle et j'ai manqué de tomber à la renverse parce que en ouvrant la porte, il y avait des grands murs blancs avec plein de colliers Maasai, colliers plats, des perles polychromes en pâte de verre là. C'est colliers de femmes et c'était plein de vieux colliers visiblement. Elle louait sa chambre au spécialiste mondial des Maasai de l'époque, Richard Waller, qui avait écrit The Lords of East Africa, Maasai, Donc là, ça a été une révélation. Je me dis, là, si je ne suis pas sur mon chemin, je ne sais pas où je suis. Hein.
Donc, synchronicité incroyable.
Tu étais... Ça n'a pas arrêté. Donc, je suis parti passer... je me dis, l'amour, de toute façon, ne se perd pas. Donc, si c'est ça, je la reverrai. Et puis voilà. Mais ça a été très, très dur. Là, j'en parle, mais j'ai souffert le martyr au départ. Et puis finalement, les 3 années que je vais passer là-bas, je raconte ça dans les 12 livres que j'ai écrits. Les 3 années, finalement, ma blessure d'amour va se cicatriser. Évidemment, je pense réel, mais plus avec cette souffrance, vous savez, que l'on a avec la séparation d'un être cher.
Mais donc l'appel de l'Afrique a été plus fort que cette histoire d'amour.
Oui, mais parce que j'avais considéré que... Justement, ce qui était plus fort, c'était cet aspect spirituel, cette relation avec quelque chose qui nous dépasse, que j'ai toujours eu. Donc, j'écoute les signes depuis très longtemps, et pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je parte, et que c'était une souffrance, on va dire, initiatique. Donc, finalement, ça s'est révélé exact. Je l'ai revu après, mais c'était évidemment différent, mais les choses bougent. Rien n'est figé, hein, mais ces trois années vont me révéler ce que les premiers Anglais ont découvert. Les Maasai ont été mis dans une réserve par les Anglais. Le Kenya a été colonisé par les Anglais. Ils leur ont volé d'ailleurs les 3/4 de leur territoire. On peut dire que c'est les plus grandes victimes de toute l'histoire de la colonisation britannique. Mais malgré ça, les Maasai pardonnent, mais ils n'oublient pas. Les Maasai ont été mis dans une réserve. Les premiers gouverneurs sont tombés comme des mouches, étaient atteints de ce qu'un auteur d'un best-seller à l'époque en Angleterre, un auteur anglais, Negley Farson, a écrit Maasaitis, la maladie d'amour pour les Maasai. Et les trois premiers gouverneurs ont été atteints de cette maladie. Ils sont tombés comme des mouches, sont allés vivre dans les villages avec des femmes, et il y en a un qui est devenu anthropologue. Donc, ce qui fait que la reine d'Angleterre a pris un décret royal pour arrêter le massacre. Hein. Donc, interdire les futurs gouverneurs de rester en poste plus de 3 mois de peur de contracter cette maladie honteuse. Donc, voilà. 3 années se passent. Je vais rencontrer l'homme de mon rêve, Kenny Matampache, qui est ici, vous savez, pour le Forum des Peuples Racines.
L'homme de ton rêve?
Oui, que j'avais fait à l'adolescence, enfin après ma noyade.
Parce que cet homme existait, c'était pas simplement l'image de quelqu'un en Afrique, tu avais vraiment les traits de personnalité de la personne.
Oui, c'est ce que j'ai considéré intimement, oui. Je n'avais pas les traits précis, mais oui, je l'ai reconnu.
Je vais remettre un peu une chronologie là-dedans. Donc, tu parles 6 ans, tu as cette vision. Tu es en Bretagne, une famille de 9 enfants. Donc, très jeune, tu as cet attrait pour l'Afrique et plus particulièrement le peuple Maasai en Tanzanie et au Kenya. Et donc, quand tu pars, tu retrouves la personne dont tu avais rêvé.
Ça paraît incroyable, mais oui. Au bout d'une année seulement, je le retrouve près du Kilimandjaro dans un lodge. Moi, j'étais à Mobilette. J'avais fait un parcours à Mobilette. On m'avait dit, il faut que tu ailles le voir. Chercher quelqu'un qui connaît un peu les problèmes juridiques, enfin le droit foncier en particulier. Je vais dire, oui. Et là aussi, c'est incroyable, c'est une rencontre totalement magique. Et donc voilà, je les ai aidés. Et après, il m'a servi de guide en quelque sorte, on va dire spirituel, même si on ne dit pas le mot, mais il m'a fortement conseillé. Et donc, à la fin de ces 3 années, je ne vais pas les raconter comme ça, mais ça a été extraordinaire, des années de grande liberté pour moi et de confirmation de ce qui est important dans la vie, en fait. Et il m'a dit, il m'a convoqué dans son village, un cercle, vous savez, les villages Maasai, entouré d'épineux. Donc il m'a dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, comme ils ont le sens de l'humour, je dis, bon, ils suivent de moi, d'accord, ok, bon. Je dis, je vois ton village. Il dit, non, tu ne fais qu'entrevoir. Évidemment, à travers les épineux, tu ne fais qu'entrevoir. Ok. Ah bon, effectivement. Et il me dit, oui, tu es resté 3 ans, mais tu n'as fait qu'entrevoir notre culture. Tu ne sais pas grand-chose. C'est bien, tu as vu plein de choses, tu as vécu plein de choses, mais maintenant, c'est maintenant que ton initiation va commencer. Ça va durer 30 ans, 9 étapes. Et tu vois, tu verras, tu vas avoir des tas des hauts et des bas. Tu vas apprendre la vie maintenant de retour chez toi. Et tu découvriras l'amour réel au bout de 30 ans. Donc là, il rigole complètement. Mais en fait, ça s'est avéré plus ou moins exact, même plutôt plus que moi. Et ce que j'écris dans les 9 leçons du guerrier Maasai, un livre que j'ai publié il y a quelques temps. Et donc, c'est vrai que les grands principes que j'avais rencontrés, des principes de vie très concrets, sans dogme, sans concept, c'est pour ça que j'adore leur culture, parce que c'est complètement rivé, ça colle à la vie, au mouvement de la vie, parce que et que j'ai appliqué au quotidien. Et c'est pour ça que ce que je transmets aujourd'hui, c'est des choses très concrètes. C'est moi ce que j'ai mis en application dans ma propre vie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
On va parler de ces grands principes plus tard, mais maintenant, tout de suite, j'aimerais que tu nous emmènes avec toi au Kenya et que tu recrées pour la radio une dimension visuelle. Donc, tu as passé 3 ans dans un village Maasai. Que ce que tu y as fait?
C'était très simple. Alors, il y avait une famille qui m'avait adopté. Bon, j'avais 3 frères, dont l'un était porte-parole de ma classe d'âge, parce qu'il m'avait fait appartenir aussi à une classe d'âge, les Ilkitoip, les vainqueurs. Bon, ça m'allait bien, les vainqueurs, oui. Bon, c'était en toute humilité, hein, mais...
T'as quel âge, là?
Ah, là, j'ai 63 ans.
Non, mais à ce moment-là, quand tu es dans ce village?
Oui, 23 ans. Bah, 23, 24, 25, quoi. Et je me déplaçais à mobylette quand j'allais de temps en temps à Nairobi.
Donc là, tu avais eu donc une bourse dans le cadre de tes études. Donc tu as fait cette immersion en terre Maasai dans le cadre de tes études, de ton doctorat.
Dans le cadre de... Oui. Sauf que moi, mon but n'était pas de devenir prof ou... Bon, il fallait que je... La thèse, mais pour moi, c'était la liberté. C'était d'aller vivre chez les Maasai. C'est comme si je vivais mon rêve. Enfin, c'était ça. Je vivais mon rêve. Enfin, tout s'est fait de façon très très fluide. Je me suis retrouvé à vivre comme eux, dans un village circulaire, avec des maisons, sorte de paniers renversés, en une sorte de vannerie recouverte d'herbes, de bouse, d'urine de vache. Et il y a un feu toujours permanent dans la maison, une ambiance incroyable, beaucoup de fumée évidemment qui colle, fumée blanche, très dense, très épaisse, colle au plafond, mais enfin, si vous restez un petit peu debout, là, vous avez très très mal aux yeux. Au début, c'est très surprenant, hein. Vos yeux pleurent les premières semaines, hein, ça c'est sûr. Mais je dormais comme un bébé là-dedans, avec les staccatos de la brousse, imaginez, le bruit des clarines sur les coups des vaches. Là, il y a des clarines, cling, cling, le bruit des hyènes, des cris de bébé. Enfin, peut arriver aussi le cri d'un lion, les lions, vous savez, ils font comme ça. Voilà, enfin, c'est merveilleux. Des choses surprenantes, beaucoup liées avec les animaux. Voilà, moi, j'adore les oiseaux. Donc forcément, j'en voyais régulièrement. Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, que j'ai adoré, c'est cette douceur des Maasai. Cette tendresse qu'ils ont avec leurs animaux, leurs vaches en particulier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de donner des coups de bâton pour les faire avancer, pour aller les faire aller là, près de l'abreuvoir, les faire descendre l'abreuvoir, ce qui serait le cas chez nous, hein. Mais là, c'est avec des sifflements, avec des... On leur parle avec grande douceur, et du coup, les vaches finissent par se frotter à toi, à te lécher, enfin bon, des tas de choses comme ça que j'adorais. Il y en avait une qui voulait grimper sur moi tout le temps. Ben, je l'évitais, c'est quand même un peu lourd. Mais c'était des choses assez simples. Mais puis, surtout, ce qui scandait mes journées, hein, parce que, oui, atypique, un carré, un péout, alors c'était, tu mettais de l'eau, c'est assez fatigant quand même, tu vois. Tu transvases l'eau dans l'abreuvoir, tu vois, l'eau d'une mare dans l'abreuvoir. Bon, enfin bref. Mais tout ça, c'était fait avec beaucoup de rigolade. T'es entre nous et ça rigole de partout.
Vous êtes combien dans le village, là?
Alors, c'était Nkanasan, c'était un village qu'on appelle Nkanasan, un village communautaire, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la propriété privée a été introduite de force, et les Maasai ont un titre de... C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Donc, il y a maintenant des petits villages. Là, c'était des villages de 30 familles. celui où j'étais par exemple. Donc ça faisait un village de près de, enfin je sais pas, 150 personnes, un truc comme ça. Ouais,
c'était... Et tout ça entouré d'épines ou alors comment ça se passe? Donc c'est un cercle concentrique avec les huttes à l'intérieur.
Chaque famille élargie a donc plusieurs maisons et une entrée, ce qu'on appelle une barrière familiale, où entre le troupeau tous les soirs et il sort. Voilà, il y a les veaux, il y a différents enclos.
Xavier, t'as passé 3 ans là-bas dans le cadre de ton doctorat, donc tu rentres en France et ensuite.
Ensuite c'est là où tout commence parce que des grands espaces, je me retrouve dans un appartement de 10 mètres carrés, à un studio de 1000 mètres carrés à Paris. C'est hallucinant. Puis finalement beaucoup de résilience parce que voilà, tu te fais je savais qu'il fallait que je mette ça en application. Voilà, ce qui fait que je me suis donné une discipline de vie que je n'avais pas forcément avant. J'ai appris à me lever tôt, à savoir à diviser le temps. Ce qui fait que par exemple, je me levais très tôt pour travailler, pour lire ma thèse. J'avais un tas de bouquins à lire. Voilà, des conceptuels, des traités, des machins, des trucs. J'ai dû cravacher, quoi. Puis je travaillais à mi-temps dans une agence de communication, parce que je voulais pas du tout être assistant à la fac. Je voulais pas. Donc ça, c'était un truc, je gardais ma liberté. J'avais trouvé un job à mi-temps, concepteur-rédacteur, dans une agence anglaise.
Mais avec l'idée toujours de retourner en Afrique?
Non. En fait, c'était pas une priorité. Ce que j'ai vécu là, je savais très bien que je ne le revivrais plus jamais. Et donc, c'était par contre pour m'améliorer moi, mettre en application. Parce que je vous rappelle que Kenny, l'homme de mon rêve, m'avait dit « Maintenant, c'est maintenant que ton initiation va commencer. » Donc ça, j'ai appris ça au fil du temps. Et j'avais pas de plan de carrière ou de ceci ou de cela. Voilà, parce que je pensais que c'était ça. Il fallait que je transmette qui je suis, je pense, transmettre qui sont les Maasai.
Mais chez toi, dans ta culture, dans ton pays.
Oui. Je savais qu'il y avait un problème en Occident, enfin en France, parce que déjà, moi, dans ma propre famille, on est tous différents. Donc, moi, j'avais le sentiment que j'ai toujours été observé, j'ai toujours été un observateur. Un poète aussi, mais un observateur, mais tout en ayant beaucoup de bienveillance et de bienveillance pour quiconque. Je ne viendrai jamais à l'idée de critiquer quiconque, chacun a son parcours, mais je voulais aider à ce que j'avais compris certaines choses, et je crois que c'est important, surtout dans le monde agité d'aujourd'hui, de transmettre des belles choses, quoi. Donc j'étais vraiment, mon moteur c'était l'amour en fait.
Donc c'est comme si tu t'es pendant ces 3 ans d'immersion chargé comme une éponge, et donc en rentrant en France, l'idée c'était de pouvoir rediffuser tout ce que tu avais intégré et assimilé.
C'est ça, et puis des choses très concrètes, quoi. Donc je me suis mis à écrire ça dans des livres, faire des conférences, et puis j'ai mis 10 ans, j'ai fait un doctorat d'état, donc j'ai dû écrire 1000 pages. J'ai eu un énorme plaisir à écrire tout ça, et puis j'en étais fier aussi, parce que c'était vraiment mon initiation. Il avait raison, l'homme de mon rêve, Kenny. Ça m'a demandé beaucoup de courage, je pense, et d'abnégation. Mais quel plaisir d'écrire, quel plaisir. Voilà, ça m'a donné goût à l'écriture.
Mais là, Kenny, l'homme de ton rêve, est où? Il est resté en Tanzanie, au Kenya à ce moment-là. Donc tu restais en lien avec lui à distance.
Oui, moi je suis retourné le voir de temps en temps quand même. Mais lui venait en France, je l'ai fait venir en France. Et puis d'ailleurs, depuis, il vient régulièrement. Mais donc il est venu à la soutenance de ma thèse à la Sorbonne. Donc là, c'était super. Et alors, bien sûr, j'ai eu toutes les récompenses. J'ai basculé prof après avoir été longtemps étudiant. Donc, je me suis retrouvé professeur, maître de conférence à Sorbonne, puis à l'île de la Réunion. Où je dirigeais un laboratoire de géopolitique, donc c'était complètement dingue, mais c'était une très belle expérience. Et du coup, à 40 ans, j'ai tout arrêté, j'ai démissionné de tout ça, parce que je sentais que j'étais plus à ma place et que je voulais continuer à être libre et pouvoir écrire ce que je transmettre, encore une fois. Donc si vous voulez, je vais vous donner les grands principes très concrets.
Allons-y, parlons de ces grands principes concrets. Mais juste avant de me parler des principes, j'aimerais que tu redéfinisses pour toi ce que c'est que les Maasai et le peuple Maasai. Ou peut-être commencer par la définition de ce peuple, l'histoire de ce peuple, ce que tu en connais, l'origine, depuis combien de temps ils vivent sur ces terres, et après m'amener ces grands principes.
Oui, c'est tout à fait important. Donc en fait, les Maasai, pour moi, selon moi, sont originaires d'Égypte. au temps d'Akhenaton, 1500 ans avant Jésus-Christ. Akhenaton, c'est les monothéismes sont nés de là, hein, évidemment. Et les Maasai sont le seul peuple, d'ailleurs, d'Afrique noire à être monothéiste, de façon large. On pourrait définir encore ce qu'est le monothéisme. Enfin, en tout cas, voilà. Et ils sont descendus très bas, jusqu'au milieu de la Tanzanie. Alors, c'est très difficile de dater, mais moi, je pense qu'ils sont là depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le dit. C'est-à-dire que, on a des récits, notamment de géographes chinois, qui datent de 2000 ans. C'était déjà les Maasai, en fait, qui étaient là. Donc, ils sont descendus. C'est un peuple du Nil, nilotique. Leur langue est nilo-couchitique. Il y a encore des mots, pas mal de mots de la langue égyptienne parlés au temps d'Akhenaton, 1500 ans avant Jésus-Christ, dans leur langue. C'est assez intéressant. Donc les Maasai possédaient un territoire immense le long de la vallée du Rift, qui va de la mer Rouge à l'Afrique du Sud, hein, où il y a tous les volcans et les grands lacs, le Kilimandjaro, le lac Victoria, le lac Tanganyika. Et donc ils possédaient un territoire immense. Un véritable jardin d'Éden le long de ce fossé tectonique, avec des plateaux et des plaines, pâturages d'altitude et pâturages de plaines. Et grâce à leur mouvement et à leur spiritualité qui agit écologiquement, et leur mouvement effectivement, leur transhumance et leurs activités purement pastorales, ils ont créé un biotope d'une richesse inouïe, avec une faune sauvage incroyablement variée et une flore aussi formidable. Très très diverses. Voilà, les Maasai sont. Ça vient de Ilmao, Maasai, le terme lui-même. Ils portent leur spiritualité en eux. Maasai vient de Ilmao, qui veut dire les jumeaux, et reflète par conséquent dans leur nom leur spiritualité, selon laquelle toute chose dans l'univers, et individuellement aussi à l'intérieur de nous, fonctionne par paire d'éléments complémentaires, c'est-à-dire non pas antagonistes. Jour et la nuit, eux, ils n'opposent pas les deux termes de la paire. Hein, le jour et la nuit, masculin, féminin, à l'intérieur de soi, le espoir, désespoir. On a aussi, par exemple, des élans altruistes, parfois aussi des élans égoïstes. On a l'ombre et la lumière. On a tout ça en nous. Eux sont dans l'accueil de l'autre élément, c'est-à-dire qu'ils sont dans la dualité inséparable. Et alors que nous sommes dans la dualité tout court, parce qu'on ne supporte pas qu'il y ait un grain de sable dans nos vies. Déjà, Épicure disait que le plus grand bonheur, c'était l'acceptation de ce grain de sable. Parce que pour les Maasai, quand on est dans l'accueil de l'autre élément, alors toute négativité se dissout. Et alors, on est dans la joie de vivre, on n'est pas dans le mental. Et ils disent, l'homme se laisse toujours piéger par lui-même, par son mental.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Je veux bien que tu m'emmènes à la spiritualité Maasai, de ses grands principes.
Ah bah justement, vous me demandez les grands principes Maasai, je vais vous les donner parce que voilà pourquoi. Bah les Maasai ont toujours été du côté de la vérité. Ils sont connectés à ce qui nous dépasse, c'est-à-dire ils ont la foi en une énergie supérieure. Et pour eux, ils s'en remettent toujours. Ce qu'ils appellent Enkai, c'est une déesse, c'est aussi le féminin sacré. C'est-à-dire qu'il faut transcender le masculin et le féminin pour accéder justement à cette connexion. Enkai, c'est le ciel, c'est un utérus sacré. D'ailleurs, quand il pleut, ils disent Asha Enkai, c'est-à-dire que la déesse envoie son liquide amniotique dans la terre-mère, dans lequel va germer la vie. Image. Mais il y a toujours cette référence à l'accouchement, à la gestation, etc., quand on était dans le ventre de nos mamans. Et puis, on n'est jamais. Voilà, ils activent leur mémoire fœtale très souvent par des rituels, etc. Mais on est toujours connecté par Osotwa, un cordon ombilical, relié à la déesse au ciel. Seul le ciel sait ce qui est bon pour nous. Donc ils font une confiance, ils ont une foi absolue, ils ont une confiance absolue dans la vie et dans le destin que Enkai nous donne à la naissance. Donc ça c'est fondamental déjà. Donc ils recherchent le bon ordre, Engolo Enkito, au quotidien. Donc on en faisant silence plusieurs fois par jour aussi, et en se connectant à cette énergie, voilà, en allant se mettre à l'ombre des arbres le soir pour recevoir l'énergie cosmique, c'est-à-dire que les rayons du soleil se transforment le soir et se trouvent, il faut le savoir, en énergie que l'on peut récupérer en quelques minutes. Ce que je fais d'ailleurs tous les jours chez moi. Voilà. En fait, Aingoro Enkito veut dire, ça veut dire rechercher le bon ordre. Aingor, c'est chercher. Aingoro, si tu rajoutes le U, c'est, tu es sûr de le trouver. C'est ça la foi. Et donc, c'est aller chercher cette part d'inconnu en nous, à l'intérieur de nous. Et en fait, qui est interreliée à tout ce qui existe. C'est ça qui nous fait comprendre qui nous sommes, qu'est-ce qu'on est venu sur Terre, donner du sens à sa vie. Le deuxième grand principe, c'est d'être joyeux, la joie Anshipai. C'est-à-dire, être joyeux, c'est pas être un impératif, mais pour eux, être joyeux, on est joyeux lorsqu'on est connecté et lorsque on voit l'autre comme un prolongement de soi-même. C'est-à-dire qu'au lieu de critiquer, dès qu'on voit quelqu'un, on est heureux. C'est-à-dire qu'on voit une partie de soi-même complémentaire. Et quand on critique, pour les Maasai, alors c'est impossible, mais si on critique, ça veut dire qu'on se critique soi-même. C'est-à-dire qu'on a une part d'ombre qu'on ne veut pas voir, peut-être, et donc on va la voir chez l'autre. Il sert de bouc émissaire. Donc ça, c'est impossible chez les Maasai. Il y a ça. Et principe 3, c'est très important également, c'est-à-dire Osina Kishon, Tena il Moran Ninta Amini, c'est-à-dire que la souffrance est un don. Si le Moran, guerrier de lumière, en est la cause, fais-en ton père. Donc c'est une. On ne peut pas imaginer qu'on ait une route sans obstacle. On a toujours des obstacles sur la route, mais les Maasai les accueillent comme une grande chance pour grandir. S'élever toujours plus haut, toujours plus léger, comme leur danse. Et effectivement, le fait de souffrir, c'est initiatique, ça teste ta foi, justement, dans ce que je disais, dans la vie, d'abord, et dans le fait qu'on est relié au grand tout, relié aux autres, relié, enfin, voilà, c'est une métaphore, bien sûr, mais on accepte de traverser la difficulté, la souffrance, pour mieux la dissoudre et pour mieux l'intégrer, une leçon de vie, à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on comprenne, précisément, grâce à ces leçons de vie, que l'on peut faire autrement. On n'a plus besoin de souffrir, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir. Et le quatrième cercle, une fois qu'on a bien travaillé les trois premiers cercles, j'ai écrit un livre, les quatre cercles Maasai du bonheur, où je donne des exercices. C'est un livre, je dirais, à vivre. C'est pour se changer soi-même, donc c'est ce qu'avait dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, je ne suis pas pris une ride, donne des exercices à faire tous les jours très concrets. Le quatrième cercle, quand on a travaillé les trois premiers, on arrive à découvrir le quatrième cercle qui est son centre de couleur bleue, son centre, c'est-à-dire son chemin, sa destinée, ce pourquoi on... voilà une activité que l'on fait, qu'on aime bien, on se passionne, on finit par découvrir voilà, ce qui nous va bien. Et Unoto, c'est-à-dire on plante son jardin intérieur, tu vois, et qui ne fait jamais que croître d'ailleurs, ça ne s'arrête jamais. Et donc en fait, c'est des principes, c'est un peu comme les accords Toltec, vous savez, le petit livre, des choses très simples, tu fais de ton mieux, tu n'en fais pas une affaire personnelle, ce genre de choses. Et là, c'est pareil, mais c'est des choses très, très, très concrètes, pas théoriques, c'est vraiment pratiqué tous les jours, mais c'est aussi, ça permet d'être en pleine conscience dans tout ce que l'on fait.
Mais aujourd'hui, donc le Kenya, la Tanzanie sont des pays où le tourisme ne cesse de se développer et on remarque que finalement le modèle occidental est imposé sur l'ensemble des peuples racines ou les peuples premiers du monde. Comment résistent les Maasai face à cette invasion de tourisme et face au modèle imposé par les gouvernements ?
C'est très dur, enfin, je ne vais pas vous mentir. Donc il y a une partie, il y a une partie des Maasai qui sombrait peut-être... dans une sorte de pauvreté, c'est alors que ça n'existait pas, ils étaient assez autonomes, ils avaient suffisamment pour vivre, ils vivaient très bien les Maasai. Et ça devient très problématique, on leur impose la propriété privée, enfin comment voulez-vous que leurs vaches puissent aller pâturer, maintenant il y a des clôtures un peu partout, enfin pas partout mais presque, c'est en train de devenir vraiment très difficile.
Mais ils arrivent quand même à garder leur spiritualité, à l'appliquer ?
Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que on leur avait volé les terres lors de la colonisation, trois quarts. Après, ils sont retrouvés dans une région pleine de tiques et de mouches tsetse, vecteurs de maladies mortelles, en particulier pour le bétail. Ils en ont réussi à nouveau, par leurs activités, comme je le disais, purement pastorales, et sont des grands écosystèmes intégrés, donc voilà, migrer ensemble avec la faune sauvage. Ils ont réussi à nouveau à en faire un jardin d'Éden par leurs activités. Et là, une fois qu'on en fait un jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on le convoite, on le prend. Donc il y a eu toute une vague de spoliation encore dans les années 60, 70, 80, faire des parcs nationaux, des réserves nationales, enfin, vous voyez, des réserves de la faune sauvage. Et la privatisation, c'est le coup de grâce. Mais ils prennent ça, enfin, je veux dire, grâce à leur spiritualité, ils arrivent à rester joyeux, à ne pas désespérer, puisqu'ils ont cette foi-là extraordinaire. L'aspect positif pour moi, c'est d'ailleurs ce que je fais, hein, c'est transmettre, parce qu'on dit toujours, comment peut-on faire pour les aider? Alors Kenny répond toujours, changez-vous vous-même, il cite la phrase de Gandhi évidemment. Et donc c'est difficile de vous dire, oui on peut être pessimiste, moi je suis pas du genre pessimiste, vous voyez, je suis dans la paire, bon, j'accueille c'est un rouleau compresseur la mondialisation, on voit bien, ils souffrent. Les Maasai sont des victimes sacrificielles aussi, comme tous les peuples premiers, parce que les changements climatiques font que le rythme des sécheresses s'est considérablement accru. Voilà cette rencontre, non pas donc abattre les clichés, puis rencontrer réellement les Maasai dans leur essence profonde. Quoi. Enfin, je ne sais pas quoi dire d'autre. Enfin, moi, je continue de le faire et j'emmène des petits groupes de temps en temps faire des voyages initiatiques chez eux, justement dans la forêt de l'enfant perdu. Et donc vivre avec les Maasai, il y a un avant et un après ce voyage. Quoi. Voilà, je suis très heureux de transmettre ce que j'ai reçu. Voilà.
Xavier Perron, merci beaucoup.
Haché en Maasai. Haché Narai.
Haché Narai. Haché Narai.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.